Il est midi à Washington. Au Niger, la population retourne demain aux urnes pour le deuxième tour de la présidentielle pour choisir entre le candidat du pouvoir Mohamed Bazoum et l'ex-président et opposant Mohamed Ousmane. Au Soudan du Sud, un an après la création du gouvernement d'union nationale, le spectre de la guerre civile est toujours présent. Le pays est miné par les rivalités au sommet de l'État, les violences intercommunautaires et la faim. Le 22 février 2020, sous la pression internationale et après un an de négociations, les ennemis jurés Salva Kiir et Riek Machar ont accepté de gouverner ensemble pour la troisième fois depuis l'indépendance du pays en 2011. Le premier en tant que président, le second comme vice-président. Ce principe de partage du pouvoir avait été fixé dans un accord de paix signé en 2018 pour mettre fin à 5 années de guerre civile qui ont fait plus de 380 000 morts et 4 millions de déplacés. Mais un an après, quasiment aucun des autres engagements prévus n'a été respecté. Le Parlement ne s'est pas réuni, des postes ministériels sources de litiges ne sont toujours pas pourvus et les troupes de Kiir et Machar ne sont pas réunies dans une armée commune. Si l'accord de paix revitalisé a permis une accalmie des hostilités à l'échelle nationale, il n'a pas ou peu eu d'impact au niveau local, soulignait vendredi dans un communiqué la Commission des Nations Unies de l'ONU pour le Soudan du Sud, dénonçant des niveaux de violence alarmants. Plus de 30 détenus d'opinion en Algérie, dont le journaliste et militant Khaled Drareni, ont été libérés hier à la faveur d'une grâce présidentielle accordée à 3 jours du deuxième anniversaire du soulèvement populaire du Hirak. Khaled Drareni, devenu le symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie, a été condamné à 2 ans de prison en septembre dernier pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Son avocat assure qu'il s'agit d'une mesure de liberté provisoire. Le journaliste est en attente d'une décision de la Cour suprême le 25 février sur son pourvoi en cassation. Sa condamnation avait suscité l'indignation en Algérie et à l'étranger. La peste est de retour en République démocratique du Congo. Plus de 500 cas ont été détectés en Ituri, dans le nord-est, et une trentaine de morts ont été enregistrés. En Somalie, des échanges de tirs ont éclaté hier en marge d'une manifestation de l'opposition dans la capitale Mogadiscio, placée sous haute surveillance par les forces de sécurité. Les Nations Unies appellent au calme et à la retenue. La Somalie devait tenir des élections avant le 8 février, date de la fin du mandat du président Mohamed Abdoulaye Mohamed, dit Farmajo, mais le pays n'est pas parvenu à organiser ce scrutin en raison de dissensions politiques. La Guinée équatoriale veut déménager son ambassade à Jérusalem, devenant le second pays africain après le Malawi à annoncer l'ouverture d'une mission diplomatique dans la ville sainte disputée. C'est à l'issue d'un entretien téléphonique entre M. Netanyahou et le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema. L'ambassade de Guinée équatoriale se trouve actuellement à Herzliya, près de Tel Aviv. De nombreux pays africains ont installé leur ambassade dans cette métropole côtière en raison de la dispute sur le statut de Jérusalem entre Israéliens et Palestiniens. Plus de 200 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde, mais leur répartition est inégale entre des pays riches qui se taillent la part du lion et des pays pauvres qui patientent. Israël est de loin le pays le plus avancé, car près de la moitié de sa population a déjà reçu au moins une injection. L'Amérique du Nord, l'Europe, Israël et les pays du Golfe ont majoritairement opté pour les vaccins développés par Pfizer-BioNTech. Et Moderna, les doses Pfizer-BioNTech sont également administrées au Japon et en Nouvelle-Zélande. Une grande partie de l'Europe se vaccine aussi avec les doses suédo-britanniques d'AstraZeneca-Oxford, également en circulation dans des pays comme l'Inde, le Sri Lanka, le Bangladesh ou le Maroc. L'Inde s'appuie en outre sur un autre vaccin développé localement. Le président américain Joe Biden a participé à son premier vaccin du G7 qui se tient en visioconférence. Le premier ministre britannique Boris Johnson a appelé les dirigeants du G7 à avancer ensemble dans la vaccination contre le coronavirus, les pays pauvres y ayant très peu d'accès. La Commission européenne a donné son aval hier à la poursuite du transfert des données personnelles vers le Royaume-Uni, une question clé dans les relations post-Brexit pour de nombreuses entreprises et pour la coopération policière. La vice-présidente de la Commission, Vera Jourova, a précisé que des mécanismes avaient été prévus pour pouvoir surveiller.